Chapitre 18. Le pauvre de Lydie. Laissant la voiture de Richard continuer sa route, l'abbé Cérès traversa la rue de Soisy, où, de chaque seuil, s'échappaient des pétillements de bois vert avec une forte odeur de soupe à l'oignon, et vint sonner à la porte de l'orphelinat. « Notre chère mère supérieure est toujours bien souffrante, » lui fut-il répondu au guichet de la tourière. « Mais si monsieur l'abbé désire voir sœur Martha, elle est justement dans la première cour. » L'Irlandaise, après qui sautillait et gaminait une grappe de fillettes de toute taille, secoua sa jupe à deux mains pour accourir au-devant du vieux prêtre, tout essoufflé encore de sa bonne partie. Dès les premiers mots du vicaire, les grandes ailes de la cornette, si blanches sur le noir de la cour, eurent un battement d'heureuse surprise. « Venez par ici, monsieur l'abbé, personne ne saurait vous renseigner mieux que moi. » Et dans le parloir doucement éclairé et parfumé par le reposoir de roses blanches, dressé à l'occasion du mois de Marie devant la statue de la Vierge au long chapelet tombant, sœur Martha, d'un de ses brusques mouvements de frère ignorantin, prit au rayon de la bibliothèque un long registre à dos vert et, l'ayant rapidement feuilleté, « Voici la date exacte de l'entrée de notre petite Lydie à l'orphelinat, 28 octobre 1860. Bientôt 29 ans, la première année de mon noviciat, et voilà pourquoi sans doute j'ai présent à l'esprit les moindres détails de cette adoption. 8 heures, la prière du soir. Marie de Béthanie, notre sœur tourière, la même qui vient de vous ouvrir, s'approche de mademoiselle de Bouron avec des gestes effarés. Elle venait de ramasser, devant son guichet, une fillette de 18 mois 2 ans, endormie, à moitié nue dans une couverture, sur laquelle était piqué comme un grand papillon, un papier blanc, avec ce nom d'une grosse écriture maladroite, Lydia. Tout à fait cela, répétait le vicaire, penché sur l'in-folio. L'Irlandaise demanda rayonnante. Vous avez donc retrouvé sa famille? J'en étais sûre. Des gens du pays, n'est-ce pas?
Non, ma sœur.
Grande noblesse, sûrement.
Oh, bien loin de là.
Pourtant, je me rappelle, insista la religieuse, sur la couverture, une grande couverture de cheval, était imprimée une couronne et des armes parlantes. De cela aussi notre registre fait mention. Voyez.
Une couverture volée, je crains bien, dit le desservant de la petite paroisse avec un bon sourire.
L'Irlandaise cria d'indignation. Volée? Mais d'où sort-elle donc, la malheureuse enfant?
Le vicaire s'excusa de ne pouvoir révéler qu'à Madame Richard elle-même le mystère de sa naissance. Engagement pris avec un vieux grand-père qui, tout près de la mort, voulait revoir sa petite Lydie.
« Si je suis venue ici tout d'abord, ma sœur, c'est pour vérifier certains détails, certaines dates d'un récit bien confus, balbutié par une bouche sans dents, que déformait l'âge et la maladie, mais qui, cependant, a dit vrai, je le vois. » Il se levait. La sœur fit comme lui, sans insister, approuvant d'autant plus cette réserve, disait-elle, que tout le monde chez les Fénigan, comme à l'orphelinat, gardait l'illusion d'une haute naissance pour la jeune femme.
« Qu'il s'en faut donc, pécaïre !» accentua le desservant de son rude parler ariégeois. Très tard dans la soirée, il suivait les berges de la Seine avec Lydie, experte en ces étroits chemins d'herbe tant de fois parcourus, quand elle accompagnait son mari pour jeter ou lever les verveux de leur pêche. Enveloppée d'un grand voile de blonde, elle précédait le prêtre, lui signalait un trou de terrier, l'anneau d'attache d'une barque, car il n'avançait qu'en hésitant, les mains chargées du viatique. Malgré la nuit claire, un épais brouillard montant de l'eau confondait les deux rives, et par nappes légères, s'étalaient jusqu'à mi-hauteur du coteau. Comme ils approchaient du petit port, où les bateaux de Richard étaient amarrés, ils virent une lumière aux ais mal joints de la baraque. En même temps, une ombre grêle se précipitait au-devant d'eux.
« C'est vous, mère Lucriot ?»«
Oui, monsieur l'abbé, mais vous nous apportez le bon Dieu bien tard. Le père Georges a cessé de vivre. »
S'agitant au milieu de la brume, avec des gestes de marionnette derrière un papier huilé,
la petite ombre mimait et racontait les suprêmes moments du pauvre vieux. Tout le soir, il avait marmonné des choses incompréhensibles, guetté la porte de ses yeux de chat. Puis, à l'entrée du médecin, dressé sur son lit et ne voyant point paraître ce qui l'attendait, il était retombé, la bouche ouverte, sans plus souffler. Heureusement, la mère Lucriot avait une bouteille d'eau bénite et, depuis une heure, elle faisait la veillée près du mort. « Merci, ma bonne, » dit le vicaire. « Maintenant, attendez ici, je vous appellerai. » Doucement, il poussa devant lui Lydie toute tremblante. Dans un fouillis humide d'avirons, de crocs, de filets, de fiches, de cannes à pêche, deux chandeliers d'argent sur une caisse couverte d'un blanc napperon préparé pour le viatique faisaient un coin de lumière et de netteté au chevet mortuaire. Les mains, les bras, tout le corps du vieux besacier se perdait à partir du cou dans l'ombre informe avec les hardes dont le grabat était chargé. Seule la tête émergeait, tranquille et superbe, non plus vineuse et vultuée, mais d'un blanc de cire où se figeaient les traits nettoyés des grimaces et des rides. La barbe elle-même, démêlée, débroussaillée, s'étalait majestueuse et faisait penser à un vieux roi lyre de grande route, foudroyé en attendant sa Cordélia. D'abord suffoqué par cette indéfinissable odeur de fourmis qu'exhalent les vêtements et les taudis de vraie misère, l'odeur de pauvre, Lydie fut tout de suite saisie par la beauté, la grandeur de cette effigie de vieux mendiant. Et devant la mort niveleuse, la honte qui l'écrasait depuis ce soir, depuis qu'elle se savait la petite fille de ce coureur de route, faisait place à une pitié tendre et respectueuse. Le prêtre l'avait entraînée presque malgré elle, révoltée, furieuse, prête à protester contre l'origine infamante, à crier à ce vieillard « Vous mentez !» Maintenant, penchée sur la pauvre figure qui, peut-être, lui reflétait quelque ressemblance, des larmes gonflaient ses yeux à la pensée de cette vie de dévouement et de misère que Cérès venait de lui raconter. La route de Corbeil, un soir d'automne. Une roulotte qui passe, chargée de ces bohémiens marchands de vanneries, affûteurs de faux, jeteurs de sorts. Le pain qui manque, les roues qui grincent, faute de graisse. Et voilà qu'à l'entrée de Soisy, le bel orphelinat aux toitures neuves, aux rideaux clairs, donne à ses roulottiers l'idée de laisser là un de leurs petits brames la fin, le plus jeune, la fillette toute mignonne, toute angélique, que l'on dépose, au jour failli, sous le porche haussé d'une croix. La mère a pleuré le premier soir, mais au milieu de tant d'autres à nourrir, elle a trouvé que celle-ci, au moins, serait sauvée de la détresse. L'affaire de quelques tours de roue, et personne dans la caravane ne pense plus à la gosseline, personne, hormis le vieux grand-père, restait seul à mendier son pain autour du couvent de Soisy pour voir si l'on accueillerait l'enfant abandonné et qui, pendant 30 ans jusqu'à sa mort, n'a plus bougé du pays, regardant passer, grandir, devenir jeune fille, jeune femme, la jolie petite bohémienne, sans qu'il ait une fois trahi le secret de son humiliante paternité. Et Lydie se rappelle. Les jeudis de promenade, le vieux mendiant suit de loin les orphelines sur la route brûlante. « Lydie, ton pauvre !» crient les petites. « Lydie, ton amoureux !» chuchotent les grandes. Toutes montrent en riant le vagabond au crâne chauve, traversé d'une grosse veine bleue que le soleil tuméfie. D'autres jours, le sol est inondé, de grands coups de vent éparpillent la pluie d'automne, tendent sur l'horizon l'immense filet gris aux mailles frissonnantes et serrées, entre lesquelles apparaît, assise sur une borne, la silhouette du père Georges, levant vers le parloir de l'orphelinat sa barbe et ses yeux ruisselants. Et ce matin de l'hiver dernier, pendant sa convalescence au couvent, quand sous ses fenêtres on ramassait le vieux pauvre enfoui dans la neige où il avait dormi toute la nuit. Et cet autre matin d'il y a 2 ans, sinistre celui-là, malgré le clair soleil de juillet, lorsque Lydie, s'évadant par la grille de la forêt, a vu le père Georges se dresser tout à coup en travers de son chemin, en travers de sa fuite, comme s'il devinait sa folie et tentait de s'y opposer. Oh oui, il savait que son enfant lui échappait, peut-être à jamais perdu, et le sanglot désespéré qui lui jetait en adieu aurait dû prévenir Lydie du dévouement héroïque et tendre qui battait sous cet amas de guenilles. Pauvre père Georges, dire qu'après tant de souffrances, cette joie suprême de voir et d'embrasser son enfant une fois, rien qu'une fois, ce désir de son dernier souffle n'avait pu se réaliser. Elle était venue trop tard, sa Cordélia, et, devant l'ancêtre couché pour toujours, se demandait comment, de quel prix reconnaître tant de renoncements et d'amour. Fermez-lui les yeux, madame, c'est tout ce qu'il désirait de vous. Elle tressaillit à ces paroles du prêtre et, penchée vers le front du mort, déjà froid et durci comme un galet, elle y mit la caresse de ses lèvres, rabattit les paupières inertes sur le regard vitreux parti au loin. « C'est aussi tout ce que je pouvais lui donner, » murmura-t-elle. Puis, s'adressant au vicaire, « Je vous en prie, monsieur Cérès, ne me croyez pas la femme orgueilleuse et sans cœur que je vais vous paraître en vous demandant de garder entre nous, tout à fait entre nous, ce qui se passe ici ce soir. » « J'allais vous le proposer, » dit le prêtre froidement. « Je me rends compte des considérations de famille. » Mais elle l'interrompit. « Non, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir. Les considérations dont vous me parlez ne m'auraient pas empêché d'avouer ma naissance et de faire au vieux grand-père des funérailles dignes de son courage, marchant moi-même en tête du convoi. Je lui devais bien cela. Mais des circonstances terribles, imprévues, « On vient d'arrêter mon mari, monsieur Cérès, ce soir même, pour l'affaire du prince d'Olmutz. Il y a eu mort violente et c'est Richard qu'on accuse. Ceci vous explique le trouble où nous étions tous au château et comment ma sortie a pu passer inaperçue. Quand vous êtes arrivés, nous venions d'apprendre la nouvelle. Vous vous figurez la stupeur, la désolation de ma belle-mère. Son fils, prévenu d'assassinat, un fainéant en prison. » Et pour moi, paraît-il, à cause de sa femme. Elle ne m'accuse pas, la malheureuse mère, mais je la devine. Et voyez-vous qu'à tous ces justes griefs viennent s'ajouter celui de mon origine, cette targue que j'apporte au nom des Fainéants, devenus par moi les alliés du père Georges? Non, je n'aurai pas le courage de leur apprendre, pas plus à elle qu'à son fils. Même pour l'opinion publique et la conviction du juge, si l'on savait que Richard a pris sa femme dans une roulotte, dans une famille d'errants, 10 heures de bonne aventure, la physionomie de mon mari y perdrait de son intégrité par une apparence déclassée, déchue, qui pourrait le compromettre davantage. L'abbé Cérès, dont les traits énergiques et mobiles faisaient tous les sentiments visibles, stupéfait d'abord, puis ému devant les aveux de la jeune femme, lui prit les mains d'un geste familier et bon. Vous avez 100 fois raison, ma chère enfant, mais soyez tranquille, c'est ici comme un secret de confession. Personne ne vous a vu entrer que cette mère Lucrio dont je réponds. Du reste, on vous savait bonne pour les pauvres et particulièrement pour celui-ci. Votre présence dans la cabane où vous l'abritiez paraîtrait toute naturelle puisque votre mari lui-même s'est chargé des frais de sépulture. Et comme Lydie s'étonnait, il lui dit sa rencontre sur la route avec Richard et le juge d'instruction. « Cher ami, soupira-t-elle, attendrie jusqu'aux larmes, de ce qu'au milieu de son drame, en plein débat vital, il eût pensé aux pauvres de Lydie. » Le prêtre continua. « Je compte que l'enterrement aura lieu demain, très digne mais très simple. Je vous demande d'être d'intention avec moi, ainsi que dimanche prochain, à la messe de la petite paroisse, qui sera une messe de mort, dont nous deux seuls connaîtrons le destinataire. Au cimetière de Draveil, nous ne le mettrons pas au coin des pauvres. Puisque j'y suis autorisé par M. Richard, je vais acheter un petit terrain, le plus près possible de la grande route où ce nomade a toujours vécu, et commander une large pierre noire sur laquelle seront gravées les deux dates de sa mort et de sa naissance, avec le nom que j'ai trouvé dans le carnet que voici. » Il prit au chevet du lit et passa à la jeune femme un petit cahier moisi, crasseux, tout imprégné de la terrible odeur, ce qu'on appelle un certificat d'identité, où se lisait, parmi les timbres de mairie et des empreintes de doigts sales, « Georges Mendelssohn, dit Père Georges. Rougegoutte, Alsace, 1802. C'était tout ce qu'on avait trouvé sur lui, ce livret et la clé de son cabane, comme il disait, une énorme clé qu'il portait au cou, à même la peau, précieusement attachée d'une chaînette. Le pauvre homme était si vieux, si malade, sa mémoire tellement incertaine pour tout ce qui ne regardait pas la Bedide, que le prêtre n'avait rien pu savoir d'exact sur son pays, son nom, sa famille. L'univers pour lui commençait et finissait à Lydia. Le reste en poussière ou brouillard de grand chemin. Pourtant, comme le certificat datait de son arrivée dans Soisy avant l'affaiblissement de la maladie et de l'âge, cette date de 1802 et ce nom de Mendelssohn pouvaient bien être véridiques. « Un nom illustre dans les arts, n'est-ce pas, madame ?» demanda le vicaire, sans doute pour atténuer la blessure d'orgueil dont il a supposé plus atteinte qu'elle ne voulait le paraître. Elle approuva doucement et silencieusement, droite et sérieuse, à la main son petit livret de misère, où ce grand nom, qui pouvait bien être le sien, contrastait sur la page souillée et froissée, comme toute son élégante personne, sur le sol boueux de la baraque, entre les murs noircis et goudronnés. Le long sifflet d'un remorqueur qui demandait l'écluse tira Lydie de son rêve. La flamme des bougies s'enfumait. De grandes ombres passaient sur la pâleur mate du mort, pendant que le prêtre priait à genoux devant le grabat. Elle ne se sentit pas le courage d'en faire autant. Trop de choses grondaient en elle, plus agitées que vraiment émues. Elle avait surtout le besoin de se recueillir, de se reprendre. Un dernier regard à son pauvre, dont le sommeil profond lui fit envie, elle était dehors.
« Madame veut-elle que je la raccompagne ?»
chuchota la femme Lucriot, assoupie, la tête dans ses jupes, à l'arrière d'un bachot.
« Merci !»
Et Lydie s'enfonça, avec la hâte d'être seule, dans le brouillard plus épais, plus obscur que tout à l'heure. Au loin, l'écluse barrait tout l'horizon d'un sourd et continu roulement de tonnerre, dans lequel se perdait le cri désolé de la remorque. Il lui semblait que c'était elle, sa vie en détresse, qui appelait, criait secours. Il faisait si noir, si confus dans sa pauvre âme après la tempête de cette longue journée. Le matin, ce mort sur la pelouse, puis l'arrestation de Richard, et pendant qu'elle essayait de comprendre l'étrange billet venu de la prison, l'abbé Cérès l'emmenant au chevet du père Georges. Voilà donc ce qu'il y avait sous cette couronne et ses armes parlantes, illusion dorée de son enfance, dont elle s'enveloppait aux heures douloureuses, où elle réfugiait ses fiertés, ses inconscientes révoltes. La voilà fixée son origine de noblesse, expliquée ses instincts aventureux et nomades. Triste cheminot qui vous arrêtiez à la fontaine du coin de la route, caravane voyageuse dont elle suivait la fumée jusqu'à perte du regard, c'est pour cela qu'elle vous aimait tant. Vous étiez son pays, sa tribu roulante. Que n'avait-elle continué à vivre parmi vous ? Et songeant à Richard et à sa mère, à ces existences droites et paisibles que son sang bohémien avait dévoyées, affolées, Lydie regrettait sincèrement qu'on ne l'eût pas laissé mourir là-bas, à Quiberon. Un instant même, la rivière tout près d'elle, la berge à pic, l'eau profonde battant les piles du pont et s'en mêlant de longues herbes, chevelure éparse du gouffre, renouvelait sa tentation de suicide. Elle se voyait remontant la côte le lendemain dans la charrette au noyer. Mais tout à coup, le souvenir de Richard, si aimant, si dévoué, la pensée de ce qu'il avait fait pour elle, l'éclairait sur ses vrais devoirs. Non, elle ne pouvait plus disposer de sa vie. N'eût-elle pas eu pour son mari le sentiment profond et doux qui lui remplissait la poitrine, elle se devait de le suivre, de l'assister jusqu'au bout de la voie désespérée où il s'était jeté par amour d'elle. Et tandis qu'en sa petite tête ardente et romanesque s'affirmaient tous les renoncements, tous les sacrifices, qu'elle se figurait reléguée, exilée avec lui sous un ciel de feu, dans la brousse des convicts, l'appel lointain du remorqueur qui traversait Corbeil allait réveiller Richard Fenningan, tout heureux de se trouver à la place de sa femme, dans la prison du bord de l'eau.